원, 투, 출! 파이어!
Qui se sont joués sous Sarkozy et qui, même là, continuent à se jouer entremêlement des gens, entre l'UMD et puis les juges dans les hôpitaux. Et voilà, il y a quand même des choses très intimes qui n'existaient pas il y a quelques temps, qui même posent un peu de soucis.
C'est ça qu'on aimerait entendre de la part de M. Portelli, parce qu'on a entendu sur cette question-là des difficultés, des pratiques courantes des deux dernières années, justement, à la suite de cette loi-là. Et qu'est-ce que vous avez comme chiffres, des chiffres par rapport au nombre de personnes que vous avez reçues, au nombre d'internements et au nombre de désinternements? Enfin, je ne sais pas comment on dit ça, mais je ne sais pas utiliser le bon vocabulaire.
On en discutait avec Patrick hier, c'est dans les 5 à 10 dernières années, c'est pas moi qui le dis, c'est pas nous d'ailleurs, c'était le rapport parlementaire Robillard, enfin, ce sont des députés qui ont travaillé en 2012-2013 sur le sujet, il y a eu une augmentation très importante du nombre de personnes qui étaient, on va dire, internées, c'est plus simple. Voilà. Donc il y a quand même cette quasiment de l'enfermement en matière psychiatrique, qui s'est accompagné aussi de la continuation de méthodes d'enfermement, d'isolement, d'attachement, de tout ce qu'on connaît. Voilà. Donc ça, c'est une mauvaise chose. Il faut dire les choses très clairement. C'est des choses qui ont été constatées qu'on pouvait constater, pas simplement comme magistrat, mais comme citoyen, comme parlementaire, comme médecin, que vous pouvez tous voir. Alors, est-ce que ça change? Oui, un peu, mais je veux dire, c'est un peu tôt pour le dire. Patrick me disait que sur Reims, il y avait une légère amélioration, puisque le nombre de ces internements baissait. Maintenant, c'est vrai que les pratiques qu'on constate dans certains hôpitaux psychiatriques sont loin d'être terminés et qu'il y a une bataille à mener encore au niveau national, mais aussi au niveau local, au niveau des patients, au niveau des médecins, au niveau des groupes de soins. Il faut qu'on arrive à faire savoir réellement ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux psychiatriques.
Justement.
Parce que le peu qu'on sait, c'est pas brillant.
Ah,
et en plus, c'est très difficile à savoir. Parce que c'est des endroits fermés. C'est aussi tout aussi difficile de savoir ce qui se passe réellement dans un hôpital psychiatrique en France que de savoir ce qui se passe dans une prison.
Et dans l'UMD, encore pire, parce que il y en a un peu pas loin d'ici.
Et on sait qu'il se passe des choses.
Et on sait qu'il se passe des choses et en même temps ça sort pas. Il y a des reportages édulcorés à la télé qui montrent. Voilà. Et c'est vrai que ça fait penser un peu à l'asile du 19e, quoi, en mettant voilà, pour sauvegarder leur public. On a dressé des murs et...
D'après les droits de l'homme et tout ça, normalement, à l'hôpital, il faudrait que la justice. Il y a quelqu'un qui, dans la justice, travaille dans les hôpitaux. Parce que moi, personnellement, qui ai été hospitalisée à GK, j'ai jamais eu de problème. C'était très bon médecin. J'ai rien à dire. Je me suis. Pas une bonne équipe, mais dans certains hôpitaux, ça se passe très mal. Dès que ça va pas, on est en isolement. On cherche pas à comprendre. Il y a deux médecins, c'est tout, ils décident d'eux-mêmes qui isoler, qui pas isoler. Il faut que la justice se mette d'accord.
Vous savez ça ou pas?
Parce que je l'ai vu.
D'accord.
Dans les autres secteurs.
Vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu de mes yeux.
Vous êtes allé dans d'autres services?
Oui, j'ai vu de mes yeux.
D'accord.
J'ai vu qu'ils hospitalisaient et que comme ça va pas,
ouais.
Quelqu'un qui a une crise d'épilepsie puis ça va pas, on le mettait directement en isolement, sans aucun prétexte. Parce que moi, comme j'étais là-bas, moi je partais partout, hein, je visitais tout le monde. Hein. c'est la liberté. Hein.
Vous avez fait Guy Michelin, là.
Voilà. Et la justice doit faire, d'après, normalement, d'après le jugement, essayer de voir avec les députés une loi, comme quoi on doit, la justice doit être présente dans les hôpitaux psychiatriques. C'est pour ça qu'il y a des malades mentaux qui passent sous le manteau. Parce qu'il n'y a rien du tout qui est fait.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous voulez, la justice, elle doit intervenir dans les hôpitaux psychiatriques. D'ailleurs, elle l'a toujours fait. Il y a des visites qui sont obligatoires et qui doivent être pratiquées régulièrement par le procureur de la République ou par un certain nombre de juges. Voilà. À mon avis, c'est ça la solution. C'est-à-dire que les juges, ils doivent venir très régulièrement, mais visiter tous les lieux d'enfermement. Hein, d'ailleurs, on a créé en 2008, ça s'appelle le contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'est monsieur Delarue. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc il visite quand même régulièrement tous les centres de rétention, les hôpitaux psychiatriques, les prisons. Donc c'est ce genre de visite inopiné, enfin je veux dire qui n'est pas prévu, quoi, qui est un peu fait sans prévenir. Voilà. Ça, c'est utile, effectivement. Et ça permet d'aller fouiner dans des endroits qu'on veut cacher ou de connaître des méthodes qu'on ne tient pas trop à faire connaître. Ça, c'est important. Mais il faudrait que les juges soient. Aujourd'hui, on a une future juge qui est là, qui est en stage. Il faudrait que les juges soient formés à ça, qu'ils comprennent que c'est ce type d'intervention-là qui est important. Mais ce qu'on a fait en 2011, c'est autre chose. C'est qu'on a dit, voilà, quand il y a un placement, il faut que le juge intervienne à ce moment-là, qu'il vérifie le dossier, qu'il entende la personne. Bon, moi j'y crois pas trop.
Vous n'avez pas du tout pu vous faire entendre en tant que comparaison du juge. Non mais par rapport à cette question, justement, il voudrait mieux contrôler les institutions plutôt que les patients.
Si, mais qu'est-ce que vous voulez on a été beaucoup à s'exprimer à l'époque, en préparation de la loi.
Oui, enfin,
je veux dire, Patrick témoignait. Il y a à la fois des psychiatres, des juges, des politiques qui sont intervenus. Mais finalement, ce n'est pas cette solution-là qui a été privilégiée. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des contrôles, un contrôle qui est, à mon avis, formel. C'est ce que j'ai expliqué hier, j'ai tenté d'expliquer, je ne sais plus que c'est vous qui aviez posé la question, où je parlais de cas où on m'avait demandé, j'intervenais comme juge des libertés, voilà, et en fait, je ne pouvais pas faire grand-chose, quoi. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est une mauvaise solution. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de venir régulièrement. Mais pour ça, il faut à la fois que les juges aient conscience, qu'ils en aient envie, mais qu'ils comprennent même la nécessité d'aller dans ces endroits-là. Parce que, c'est pas évident de s'intéresser aux hôpitaux psychiatriques ou aux centres de soins. Je dirais même que... faut en avoir envie, quoi. C'est pas forcément le premier endroit où on a envie d'aller. Comme d'aller en prison, c'est pas non plus réjouissant.
Oui, je voulais dire quand même que par rapport à cette loi-là, ici, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais dans plein d'établissements, je crois qu'il y a un gros problème d'information des patients eux-mêmes quand ils vivent en internement ou voir des familles. Où l'information qui est donnée est très. Même par rapport à cet entretien avec un juge, il n'y a quasi pas d'infos. On dit voulez-vous rencontrer un juge? Ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas. Enfin voilà. Et comme ils sont déjà dans une posture d'internement, c'est à quoi bon? Et je pense qu'il y a un gros travail d'information à faire aussi auprès des patients et par rapport aux droits des patients. Et je pense que là-dessus, il y a des grosses lacunes quand on est hospitalisé. Après, je pense que ça dépend des services aussi.
Vous devez en discuter devant la fiche conducteur, le fiche conducteur, ce que vous faites.
Ouais, il y a des choses. Mais c'est vrai que c'est. Je pense que c'est pareil, même ne serait-ce que pour les familles. Enfin, moi, j'en parle aussi pour. Parce que j'ai vécu ça par rapport à des gens de la famille, même la famille qui demande le placement, quand elle reçoit une convocation d'un juge, quand elle reçoit C'est un procès verbal de jugement avec l'avocat, etc. Les droits de recours, c'est impressionnant. Et je pense que les familles, voire les patients, ne mesurent pas toujours ce que ça représente et puis l'impact de l'intervention de la justice là-dedans et qu'il y a une très mauvaise information, voire dans certains endroits, de l'information inexistante.
Je voulais te donner un point d'information par rapport à la question de la visite surprise. Le contrôleur général de la rue est venu visiter l'UMD de Châlons.
Ah bon ?
Il a trouvé impeccable.
C'est bien, ça.
Et alors qu'il vient d'éclater un scandale sur lequel je ne vais pas m'y bon, il l'a trouvé impeccable. C'est-à-dire que le problème, c'est aussi que ce qui est contrôlé, c'est les formes.
Bah, oui.
C'est-à-dire si les procédures... Or, pourtant, dans l'UMD, il y a une caméra qui filme en permanence, y compris... Le patient dans la chambre d'isolement, il n'y a pas d'intimité. C'est quelque chose à quoi moi j'ai hurlé en CME, mais ils ont décidé de faire comme ça. Et bien, du moment que c'est réglementaire, que c'est déclaré, qu'il y a des protocoles, que tout est écrit, de la rue a donné très bonne note à l'UMD de Châlons.
En passant
l'improviste, effectivement, ils respectent des protocoles, quoi. Donc, tout est réglementaire. Alors, ce qui est compliqué, vous voyez, c'est qu'il y a la question du droit, il y a la question des pratiques. Quand on leur dit l'intimité du patient, etc., ils m'ont fait croire même qu'il y avait des caméras dans toutes les UMD. Et quand Pandelon est venu ici, on a vérifié, hein, c'est pas vrai. Dans son UMD, il n'y a pas de webcam dans la chambre d'isolement. Mais ça a été discuté comme ça.
Pas
de webcam. Vous vous souvenez quand Pandelon était venu, on lui avait posé la question. Et c'est pour dire sur la question des difficultés d'un contrôle. Parce que c'est comment intervenir dans une pratique où les gens en équipe décident de faire comme ça, quoi.
Bah, il y aurait bien une solution, mais en France, elle n'est pas encore appliquée. Ça s'appellerait la personne de confiance. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme de loi, ce n'est pas non plus un soignant, c'est une personne qui est désignée par avance ou au moment de l'internement par le patient lui-même, qui, lui, pourrait officiellement servir de tampon entre l'institution hospitalière, la justice, la famille, enfin, entre tous les intervenants de la prise en charge. Sauf que, pour l'instant, en France, il n'y a pas encore la mise en place de cette personne de confiance. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas arriver à l'hôpital et dire « je veux que vous référiez de mon hospitalisation ». Non, légalement, c'est pas... Je ne sais pas si c'est...
C'est déjà le cas. Je ne sais pas quel est son pouvoir. Mais
alors, pourquoi le cas...
Je pense que son pouvoir est très limité.
Oui.
Mais ça existe déjà.
Elle a un droit de conseil, j'imagine, mais... Ça doit pas aller bien au-delà.
Bah moi, je sais pas si officiellement ça marche, parce que le 4 avril, là, on a reçu une invitation pour aller discuter de ça avec, entre autres, monsieur Delarue et puis tout un tas d'autres.
C'est pour renforcer le pouvoir de la personne de confiance, mais ça existe déjà dans les textes depuis plusieurs années. Et donc, dans le dossier actuellement Cortès, il y a une case pour la personne de confiance.
Bah alors pourquoi ça, c'est pas clairement affiché partout ?
Parce que je crois que la personne.
Pourquoi est-ce que cette info, même moi qui suis quand même. Je me tiens au courant, je le sais pas, c'est un problème quand même.
Donc, la pouvoir, la personne de confiance actuellement. C'est un nom dans le dossier, effectivement. Ça a besoin de dire.
Ouais, mais les choses ont le pouvoir qu'on leur donne. Je veux dire, si personne ne dit à personne que ça existe ni à quoi ça sert, évidemment que personne ne s'en sert. Donc, le pouvoir, il est amoindri. Il y en a déjà pas beaucoup, mais il est encore amoindri par le mépris. On a encore une fois un vrai problème, bordel. Et tout est comme ça. Je veux dire, vous disiez que les gens, notamment les futurs juges, comme les futurs psychiatres, sont au courant de rien. Évidemment, l'information qu'on leur dispense au sein des universités, elle est complètement nulle. Elle est nulle parce qu'elle est pourrie, corrompue. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui remplissent les manuels, qui vont remplir ce qui va servir à la formation des futurs professionnels, sont des menteurs. Ce sont des gens qui ont des intérêts, souvent économiques ou politiques, qui mettent en place tout un tas de procédures qui vont aller dans leur sens à eux, pour privilégier soit leurs intérêts, soit leur tranquillité, ou des choses comme ça, voire leurs intérêts financiers, quand ils ne sont pas sous la pression des lobbies en plus. Et tout ça, je veux dire, là c'est la semaine de l'information, dans les 5 thèmes officiels du fameux site de l'ACISME, là il y a un point moi qui me plaît beaucoup, c'est relatif à l'information par l'Internet. Par exemple, Olfa a évoqué l'OMS, vous aussi d'ailleurs, à propos de Roland et de l'OMS, voilà. Tout ça, normalement, ce sont des choses dans lesquelles le patient, même le citoyen, devrait prendre part sur le plan démocratique. C'est le rôle de citoyen de prendre part à ces choses-là. Sauf que c'est fermé, c'est cadenassé, c'est... moi, ça fait un an là que j'essaye régulièrement, plusieurs fois par an, je vais à Paris pour rencontrer le corps de... excusez-moi l'expression, mais quand même, dans tous les ministères de...
Ah merde.
Moi, je m'appelle Jacques.
Donc, moi, je m'appelle Alphonse.
Voilà. Donc,
moi, je m'appelle Sarkozy.
Je suis allé alors, dans ce truc qui s'appelle la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Alors, c'est un sacré nom pour la cohésion sociale. En réalité, c'est absolument incohérent. Je me suis cru dans le film... comment ça s'appelle ce film ? Brasil, vous savez, où il y a des ascenseurs qui desservent des étages où tous les bureaux sont des petits casiers comme ça, dans lesquels on met un sous-secrétaire avec son demi-bureau, son petit ordinateur, et puis il a sa petite intervention à effectuer. Enfin, c'est très pathétique. Alors on discute avec ces gens-là qui sont en réalité, d'une part, au courant de rien. Bon, alors ça suscite un intérêt pendant le temps de l'entretien, mais je veux dire, ces gens-là, on les entend la semaine d'après dans les médias, ils n'ont rien compris à ce qu'on est venu leur dire. Parce qu'ils sont comme ça sous la pression du gros média télévision, qui lui, y va plusieurs fois par semaine de ses mensonges en racontant ce que vous disiez, que l'UMD, finalement, bah, c'est super, que le patient, à partir du moment où il prend le traitement, et le traitement balèze qui va le scotcher, bah, c'est sa prise en charge, et s'il envisage, lui, autre chose que ça, bah, il est en déni de soins. Bon, tout ça, je veux dire, c'est les informations qui, à mon avis, c'est le moment, cette semaine, une fois par an, de faire sortir. Ce sont les vraies infos, il ne s'agit pas encore une fois de faire de rien dire. C'est le moment où il faut dire. Voilà. Ouais.
Là, je vais vous parler de la conception qui domine. C'est-à-dire les idées dominantes dans la grande majorité de la psychiatrie, dans les ministères, dans le discours public, dans le discours politique et médiatique. Cette conception, c'est une conception qu'on pourrait qualifier de scientiste de la maladie. C'est-à-dire que j'insiste sur le mot scientiste. C'est pas dire tout ce qui se fait dans le domaine des neurosciences ne vaut rien et il n'y a que la psychanalyse ou la relation qui compte. C'est absolument pas mon propos. Mais c'est cette idée que finalement la maladie mentale serait un pur produit du cerveau, du système nerveux ou du patrimoine génétique ou d'une anomalie génétique, comme un peu, si vous voulez, une maladie de foie ou une maladie du nez ou des oreilles. C'est ça la position scientiste. Et donc, cette position scientiste, non seulement elle est discutable, puisque si la folie, c'est de l'humanité, on ne peut pas la réduire à un symptôme, à quelques symptômes comme ça définis au préalable. Mais c'est le cas aussi parce qu'en fait, le problème, c'est que non seulement elle existe et qu'on peut la critiquer de ce point de vue, mais qu'elle est la seule auquel le pouvoir dominant, les idées dominantes se réfèrent. Ça veut dire que tout ce qui concerne, tout ce qui n'est pas cette vision biologique des choses, tout ce qui est une vision qui serait une vision anthropologique, qui serait une vision sociale, économique, psychologique, etc., est délibérément écarté. Et d'ailleurs, ça ne contribue pas à avoir une meilleure connaissance de la folie. Et alors, pourquoi c'est important ? Parce que je pense que là, il y a un aspect politique très important. Il y a un aspect politique très important qui croise d'ailleurs la clinique à un moment donné, c'est que cette position-là, c'est-à-dire dire, voilà, c'est comme ça, la science va s'en occuper, et vous remarquerez d'ailleurs que ça ne souffre aucune discussion, aucune discussion. C'est vraiment comme si c'était définitivement acquis, et que tout le monde était d'accord et qu'il n'y avait plus à revenir là-dessus. Mais cette position, elle évite, qu'est-ce qu'elle évite ? Ben, elle évite de se poser les questions sur notre propre responsabilité et sur la responsabilité du monde par rapport au fou. Elle évite de se poser la question sur notre comportement par rapport à la folie et par rapport au fou. Et on sait très bien, c'est comme si vous voulez, on pouvait se défausser sur un gène déficient de la situation de l'autre, sans que ça nous interpelle, sans que ça nous interroge. Et je pensais tout à l'heure, en regardant ces spectacles formidables, je me disais, essayons de nous mettre dans la peau, par exemple, de quelqu'un qui vivait au 19e siècle ou au début du 20e siècle concernant l'asile. Si on lui avait dit, un jour de 2014, on va tous se retrouver comme ça, plusieurs dizaines de personnes, et on va faire des choses ensemble, et on vit dans la ville, et on s'entraide, et on fait en sorte qu'on vive, mais ils nous auraient pris pour des martiens. Ils nous auraient pris pour des fous, c'est le cas de dire. Parce qu'à l'époque, on était persuadés qu'il fallait enfermer, que c'était la seule solution. Ça montre bien que la responsabilité du monde, que le monde a une responsabilité dans la situation du fou, comme dans la situation de l'individu en général, parce qu'il n'y a pas très loin entre les deux situations. Et puis le troisième point, c'est que cette vision, elle renvoie au fou lui-même la responsabilité de son état, quand on y songe. La responsabilité sous l'angle qu'on va lui demander d'être un citoyen souffrant, qui doit faire les efforts, qui doit se forcer, qui doit pour se réinsérer absolument. Avec cette idée que finalement, le problème n'est pas qu'il aille mieux, le problème n'est pas qu'il souffre moins, le problème n'est pas qu'il se sente bien parmi les autres hommes, le problème c'est qu'il faut qu'il se réinsère absolument, parce que tant qu'il n'est pas réinséré, il coûte, et que pour ça, il faut absolument faire en sorte que l'objectif soit la réinsertion ou la réhabilitation, ou tout ce que vous voudrez, quelle que soit la façon dont on nomme tout ça. Et cette politique, cette vision, et là où c'est terrifiant quand on y songe, c'est que ça conduit au tri des gens, à la sélection des gens. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui peuvent le faire et qui peuvent se réinsérer et suivre cette injonction d'insertion, et puis il y a ceux qui ne peuvent pas. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux-là ? Eh bien, ils restent chez eux, dans leur famille, ils restent enfermés dans leur chambre. On les retrouve en prison, on les retrouve dans la rue. 30% des SDF sont des psychotiques. Et comment on va faire pour les aborder, ces gens-là, alors qu'on considère le fou comme un citoyen, comme je disais, souffrant et responsable ? Eh bien, on va les culpabiliser, et non seulement on va les culpabiliser, mais on va les criminaliser. C'est-à-dire qu'ils vont rejoindre la cohorte des populations à risque. Vous savez, il y a des populations à risque qu'on surveille et qu'on contrôle, qu'ils soient les étrangers, les Roms, les délinquants, les pauvres. Et donc, ces fous qui, eux, ne peuvent pas se réinsérer, on va les rejeter dans cette catégorie. Souvenez-vous, c'est pas si vieux, du discours de l'ancien président Nicolas Sarkozy à Antony en 2008, c'était ça son affaire. Deuxième point, je ne suis pas trop long, ça va ? Deuxième point, ce sera parmi les derniers, il y a cette conception scientiste, et puis ça entraîne aussi cette vision de la folie, entraîne aussi une conception gestionnaire de la folie. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, on n'est pas là pour soigner, on est là pour gérer. Je parle du système, là, hein, je parle du système politique et économique dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on est face à un problème, c'est cette population déviante, cette population perturbatrice. Et le problème n'est pas qu'on la soigne, le problème n'est pas qu'elle aille mieux, le problème n'est pas qu'elle s'intègre réellement dans la société, le problème c'est qu'il faut la gérer, qu'elle nous ennuie le moins possible. Donc l'objectif, et ça aussi c'est un trait de caractère de cette politique de santé mentale dont on parle en ce moment, c'est que l'objectif d'abord il est de renvoyer les fous dans la cité, aussi pour des raisons financières, les renvoyer dans la cité, les faire gérer non pas par le sanitaire, non pas par la psychiatrie telle que la concevaient les aliénistes et Bonafé, mais les faire gérer par le mouvement social et par le mouvement associatif. Et donc, il me semble qu'il y a une idée qui est intéressante là, c'est que avec la santé mentale, c'est-à-dire le système qui est le nôtre aujourd'hui, qui est un système nouveau, c'est-à-dire c'est pas simplement un changement de mot. L'une des caractéristiques de cette politique, de ce paradigme de santé mentale, c'est qu'il y a une séparation qui devient de plus en plus béante et de plus en plus importante entre le sanitaire et le social. Et ça, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que, d'une part, on a une rupture avec le passé, avec un passé lointain. Parce que quand vous prenez, par exemple, l'asile, et quand vous prenez le secteur, eh bien, l'asile et le secteur étaient considérés et se considéraient comme une médecine spéciale. C'est-à-dire une médecine qui faisait de la médecine, qui essayait de soigner, mais qui en même temps avait pour vocation d'accompagner les gens tout au long de leur parcours. Et d'ailleurs, le secteur, c'était ça aussi, puisqu'avec la continuité des soins, c'était bien ça l'idée. Et d'ailleurs, Bonafé disait de ce point de vue que le secteur était un mutant, de ce point de vue, était un mutant de l'asile. Là, on a une rupture de ce point de vue. Et là, on a une rupture de ce point de vue, et le gros avantage pour le système, c'est que en renvoyant dans les bras du social et des associations, moi je les connais bien les associations, vous savez, je suis allé dans pas mal, y compris des associations très importantes, ils sont à plat ventre. D'une année sur l'autre, on leur baisse les budgets en valeur absolue. Ils se battent comme des chiens, ils sont sans augmentation de salaire, les gens qui y travaillent, etc. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va gérer d'une façon minima, la folie, et peu importe la situation des gens, peu importe le soin ou pas le soin, il n'y a plus de soins. Il n'y a plus que les rapports humains que peuvent essayer de nouer ces gens dans les associations, et point final. Mais on n'est plus dans le soin tel que les désaliénistes, tel que vous essayez de le faire ici. Je ne crois pas me tromper de ce point de vue. Et d'ailleurs, la réalité, je vais vous donner un exemple, puis je vais terminer là-dessus. Je vous donnerai un exemple sur les conséquences de ça. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Caen, chez un ami psychiatre qui dirige une association là-bas, et on était dans un endroit où il y avait des auxiliaires de vie, là, c'est-à-dire des gens qui vont faire le ménage, etc., chez les gens. Et on était plusieurs à discuter, et d'un seul coup arrive une dame avec une patiente. Et la patiente était dans un état de stress et d'angoisse, mais pas possible, quoi. Vraiment, c'était terrible. Et vous savez pourquoi elle était stressée et angoissée ? Parce que son auxiliaire de vie partait une semaine en vacances. Et pourquoi elle était angoissée ? Parce que son auxiliaire de vie partait une semaine en vacances ? Parce que son auxiliaire de vie, qui venait faire le ménage une fois par semaine, était le seul contact qu'elle avait avec elle. Le seul contact. Alors, si le retour à la cité, c'est ça, on s'imagine bien que là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Quelque chose qui ne colle pas. Et je terminerai sur un point important. C'est pour reprendre un peu la philosophie de fond des aliénistes. C'est que si on considère que le fou est un être humain à part entière, on considère que son état n'est pas figé, pas plus que le mien, pas plus que celui de n'importe qui. C'est-à-dire que l'homme, c'est quelqu'un qui se construit au fil du temps et qui la vie, c'est une création. Ça, je pense que c'est très important. Le deuxième point qui est très important, si vous considérez que le fou est un être humain, vous le respectez tel qu'il est et vous l'acceptez tel qu'il est. Vous ne lui demandez pas de changer. Vous ne lui demandez pas d'obtenir des objectifs. Vous ne lui demandez pas d'aller vers un projet de vie qu'on aurait décidé pour lui à sa place. Jean Houry, il dit souvent, en psychiatrie, le chemin, il se fait en marchant. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis l'autre point qui me semble très important, très très important dans la situation actuelle, c'est que si vous considérez le fou comme un être humain, vous considérez que le soin, c'est la relation avec lui. C'est-à-dire tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que cette relation, qui parfois est difficile, parce que la communication est parfois difficile, mais que la relation, c'est le soin, c'est la relation, et rien d'autre. Par exemple, quand on dit, moi j'ai eu souvent des discussions là-dessus, quand on dit le médicament, bah oui, le médicament, personne ne va nier le fait que le médicament est important. Mais si on donne un médicament et qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de soin. Il y a de la gestion inhumaine, de souffrance humaine, mais il n'y a pas de soin. Et je terminerai, parce que sinon ça va être trop long, on aura la place pour les questions, je terminerai sur deux choses, enfin sur une chose. C'est que on est dans une question, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de clinique, ce n'est pas du tout ma compétence, mais on est dans une situation où il y a des concepts clés, il y a des mots clés sur lesquels, et qui sont des mots qui relèvent de situations politiques, sur lesquels ils méritent de se battre et de se battre comme des chiens. Et il y a deux mots que je voudrais vous soumettre. Le premier, c'est humanité de la folie, parce que de ça dépend tout le reste. C'est dès le moment où on ne considère pas le fou comme un humain, et bien tout le reste suit. On peut se permettre de le gaver de médicaments, on peut se permettre de le mettre dans une chambre attendant la visite de l'auxiliaire de vie, on peut se permettre tout et n'importe quoi. Si au contraire, on le considère comme un humain, alors on réinvente tout le système pour le replacer au centre, pour le remettre sur la scène. Puis le deuxième concept qui me semble important d'un point de vue politique pour se battre sur ce pourquoi on veut se battre, c'est la question du soin. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je pense que si, parce que vous êtes plus au fait que moi de ce point de vue, c'est que quand vous discutez avec n'importe qui, que ce soit chez certains soignants, que ce soit chez des gens dans l'opinion publique, pour eux le soin c'est le médicament, pour eux le soin c'est la piqûre. Le reste c'est en plus, le reste c'est un surplus. Eh bien non, je crois qu'il faut se battre sur le fait que le soin, c'est à la relation. Voilà, j'ai pas été trop long.
C'est comme on l'entend, et j'ai l'idée d'une idée. Dans collée de ce bitume. Et ses pavés à fond de cale, dans l'air silencieux, oubliez cette putain de pluie. La nuit est finie, peut-être enfin. Demain nous appartient. Gemini. Même si je suis rien, si je suis personne, personne, Gemini. Un grain de poussière dans la grisaille, Gemini. Un parfum qui vient de quelque part, où les portes ne sont pas closes. Over on the rainbow, heure indoue, rentrez tôt. Tôt ou tard, c'est comme on le sent. Et j'ai l'idée de m'élever dans l'espace. Oubliez ce putain d'ennui. La nuit est finie, je sais enfin. Demain nous appartient, Gemini. Même si je suis rien, si je suis personne, personne, Gemini. Sortir ce matin de la grisaille, Gemini. Je crois en quelque chose, quelque part. C'est sûr, il y a autre chose. Over on the rainbow, imprécise. Et tu voudrais que je t'emmène. Alors viens, viens dans mes vies martiennes.
Nous vivons une époque tourmentée où les repères sont parfois bouleversés par les visées scientistes, cachant en réalité une certaine réalité économique. La personne humaine doit être absolument rentable et une personne en souffrance peut se sentir bien fragilisée. Les médias s'emparent des faits divers et ne parlent en général de la souffrance psychique que pour dire que tel ou tel meurtrier était un schizophrène. Alors que des études prouvent que 90% des personnes en souffrance, à cause de leur schizophrénie, sont peu ou pas dangereuses. Le fou ne peut être réduit à une notion de dangerosité. C'est une personne souvent fragile que la maladie isole et qui a besoin de faire confiance à ceux qui l'entourent. Le patient en psychiatrie doit donc se sentir compris pour sortir de son aliénation. Des centres comme celui du CMP et CATTP Artaud sont les bouées de sauvetage pour nous autres. Il y a un sentiment de compréhension et de sympathie qui naît grâce au transfert. En tous les cas, moi, j'ai repris goût à la vie et je travaille sur ma maladie, que je comprends mieux désormais grâce à mes amis soignants, mes amis du MAPSI, car nous formons un groupe d'amis ayant les mêmes objectifs, défendre et aider à la reconnaissance de la singularité des patients. Nous devons faire, à notre échelle, une sorte de militantisme, proche de l'action politique. Je suis impliqué dans le monde politique, je suis trotskiste et l'humanité de la folie, le bouquin de Patrick Coupchou, dont nous avons parlé à la Maison commune du Chemin Vert, tout de suite, moi, cela me parle. Moi, je me considère comme un citoyen cosmopolite. Donc l'humanité, ça me concerne, et qu'elle existe dans la psychiatrie, même si certaines personnes, comme un ancien président de la République, semblent nous le dénier, nous sommes des êtres humains, pas des animaux. Les TCC s'apparentent pour moi à une forme de dressage. Le soin sans la relation ne peut être une forme de médecine unique. Chacun doit avoir le choix et l'alternative de la psychothérapie institutionnelle doit être possible. Ne pas laisser cette alternative aux patients est pour moi un déni de sa liberté et de son droit, de ses droits. L'humanité doit rester dans la psychiatrie. Ceci restera toujours ma conviction aujourd'hui et demain.
On a tous un positionnement et on souffre. Voilà, on souffre alors qu'on souffre. Parce que quand par exemple, effectivement, on est dans une famille où un des frères ou une sœur est malade, on souffre pas seulement comme étant sœur de la malade. On souffre aussi en tant que sujet par rapport à la vie qu'on a. Je crois que c'est très curieux ces espèces de divisions qu'on voudrait faire. Je pense qu'on a tous une histoire particulière. Alors parfois effectivement, la souffrance, de toute façon, elle vient bien souvent de l'intérieur. Parfois il y a des choses à l'extérieur qui nous amène des tas de difficultés, mais c'est pas séparé, hein, c'est pas d'un côté ma sœur malade m'a rendu malade, ou mais non, on se positionne face à la vie et puis il y a des fois où on n'est pas bien. Donc voilà, je pense pas que, enfin voilà, moi j'aurais plutôt envie de dire, on est tous des sujets dans un monde, dans une réalité à la fois intérieure et à la fois extérieure, qui parfois nous amène des souffrances. Voilà, c'est pour, bon, on va pas faire la guerre quand même.
Qu'est-ce qui se passe là?
Ah, les mecs sont venus voler, ils sont partis. Ouais.
Ils sont volés quoi?
Bah, la caisse, je pense.
La caisse, quelle caisse?
Non seulement les généralistes ne sont pas formés, mais les psychiatres non plus ne sont pas formés actuellement. Il faut quand même le savoir, actuellement, depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a eu un arrêt de la formation des psychiatres à d'autres techniques que celles des médicaments. Hein. Donc les agrégés de psychiatrie, les professeurs de psychiatrie, j'en ai parlé encore récemment avec un professeur de psychiatrie, pour être professeur, il suffit d'aller passer une année aux États-Unis et d'avoir plein de publications internationales écrites en américain, dans les journaux américains, et il n'y a pas besoin d'avoir vu un seul patient. Hein, donc c'est le cas de la totalité maintenant des professeurs de psychiatrie adulte en France, et il n'y a que quelques professeurs de pédopsychiatrie qui ont une formation justement aux soins relationnels, à la psychanalyse, à la psychothérapie. La totalité des professeurs de psychiatrie adulte aujourd'hui n'en ont plus. Bon, ça c'est un point important. Donc quand on arrive comme psychiatre, ce qui m'est arrivé il y a déjà longtemps, donc en 75, on a juste appris à donner des médicaments, et si on veut se former, ben, il faut faire une psychanalyse, il faut aller sur le terrain, il faut écouter les patients, il faut écouter les familles. Et c'est comme ça que je me suis formé, et que d'autres se forment. C'est comme ça que le centre Artaud s'est construit. Hein, mais il ne faut pas, effectivement, penser que les psychiatres auraient un savoir. Alors, par rapport à tout ce qui se déverse dans ces semaines qui ont lieu tous les ans, je trouve que, quand même, ça n'a pas été dit au début. Effectivement, je suis sensible au fait qu'ait été relevé ce discours critique sur le discours de propagande qui est tenu sur les nouvelles découvertes. Bon, il faut quand même savoir que ce qu'a dit Mathieu Dissert est totalement vrai. Il n'y a aucune nouvelle découverte. Tout est mensonger. C'est uniquement un discours de propagande pour obtenir beaucoup d'argent au niveau du gouvernement américain, 100 millions de dollars promis par Obama pour des découvertes qui n'arrivent pas. Il n'y a aucune nouvelle découverte. Les seuls nouveaux médicaments n'apportent rien de plus. Les dernières techniques ont montré qu'en fait, si on arrêtait de payer les médecins par les laboratoires et que c'était carrément donc là à double aveugle, les médicaments nouveaux n'avaient aucune efficacité supérieure par rapport aux médicaments anciens. Ce qui change, c'est les effets secondaires, comme ça a été dit, et puis c'est tout. C'est déjà pas rien, hein. Il n'y a pas rien, mais c'est tout. Pour le reste, et ça nous concerne tous, c'est au fond, comment se fait-il que ça soit si difficile d'informer sur le fait que c'est au fond que les troubles relationnels sont soignés par des techniques relationnelles, par le mot technique d'ailleurs pas très bon, mais par des soins relationnels. Comment ça se fait? Je crois quand même que sur le fond, on a tous, quand on n'est pas malade, on a envie d'oublier la maladie. Quand on ne souffre pas de troubles psychiques et qu'on n'a pas subi cette catastrophe, on n'a pas envie de savoir. Moi, je suis très surpris parce que maintenant, depuis 5 ans, qu'il y a eu auparavant, avant qu'il y ait eu le discours de Sarkozy, moi, je n'allais pas dans les médias et sur la place publique et je me contentais de travailler avec les familles et les patients qui venaient au centre Artaud. Bon, c'était déjà beaucoup de boulot. Quand il y a eu le discours de Sarkozy racontant des monstruosités sur les malades, je me suis dit que ce n'était plus possible de rester dans un... Il fallait quand même. Et à chaque fois qu'on rencontre des journalistes, je me rends compte, non pas qu'on leur a dit de dire tel truc ou que leur chef de leur comité de rédaction leur a. Non, c'est qu'ils ne savent rien. Et pourquoi ils ne savent rien? C'est parce qu'ils n'ont pas envie de savoir. Et parce qu'on a. Je discutais avec quelqu'un en arrivant qui me disait je ne savais même pas que vous existiez depuis 30 ans à Reims, plus. Bon. Et oui, pourquoi? Parce que, de fait, on se retrouve isolé. Et souvent, d'ailleurs, avec quelque chose, je dirais, d'une orientation défensive, à ne pas se renseigner, c'est compliqué d'aller vers l'autre. Pour aller rencontrer quelqu'un d'autre, il faut déjà aller bien. Il ne faut pas trop souffrir. Quand une famille ne va pas bien, souvent, elle est isolée des autres familles. Donc, effectivement, les passerelles qui se constituent entre les familles, dans l'UNAFAM, ou en dehors de l'UNAFAM, ou avec des soeurs, toutes les passerelles que nous pouvons construire, elles sont bonnes à prendre. Moi, ce qui me frappe quand même, tout de même, je m'arrête là-dessus, c'est que voilà 15 jours que nous avons tenu à Reims des réunions qui se sont tenues sur un tout autre discours que ce discours de propagande sur les pseudo-découvertes de la science. Et avec le juge Portelli, et jeudi dernier, et encore aujourd'hui, c'est autre chose qui s'affirme, c'est-à-dire la primauté de la parole entre nous, la primauté, on n'est pas contre les médicaments s'ils peuvent être utiles. Bon. J'ai pas banni le Prozac, hein, il n'y a aucun autre, après tout, pourquoi pas. Mais par contre, ce qui compte, c'est qu'il y ait effectivement des relations, on parlait d'amitié, des relations de confiance surtout, hein, qui peuvent se nouer entre les uns et les autres. C'est pas fait. Alors, je crois que ce que nous avons construit à Reims, et on voit bien que dans les débats, la prise de parole des patients a été massive, je dis, les familles aussi. Ça, c'est quelque chose, je trouve, à poursuivre. Alors, de là à faire remonter ça au niveau national, c'est une autre affaire. On voit bien que là, par contre, il y a un bug, c'est difficile. Par contre, il faut continuer au niveau local, parce que c'est important, cette base locale, parce que pourquoi? Ça montre que dans la pratique, nous arrivons à le faire. Des personnes vont mieux de ces soins relationnels, des familles peuvent discuter et la méfiance retombe, plus ou moins. Vous avez pu dire tout le mal que vous pensiez des soins à l'hôpital et vous avez bien fait de le dire l'autre jour, mais en même temps, les soins sont différents d'un service à un autre. Il y a des endroits où on attache les gens, des endroits où on ne le fait pas, des endroits où il y a des techniques de punition qui sont faites à l'égard des patients, d'autres non. Donc c'est très important de montrer ces choses-là, mais sachant qu'on se heurte de grandes barrières du côté du refoulement de ne pas vouloir savoir, quoi.
Le jour où on guérit de ce qu'on est, c'est qu'on est mort. Voilà. Je crois que on essaye de tenir dans la vie comme on peut. Il n'y a pas qu'une guérison, il y a à chacun sa possibilité de guérir. Si, et je vais vous dire, même si quelqu'un qui est malade et qu'il est là en vie pour le dire, c'est que quelque part, il a su produire sa maladie pour ne pas en mourir, justement.
Je vais prendre la parole du coup, merci. Merci à tous d'être venus, hein, parce qu'on est quand même nombreux là, j'ai l'impression.
On a prévu d'un extrait, et Mathieu, je pense, qui est le plus scientifique de nous tous et qui est aussi notre président, peut-être faire une petite explication sur avec quel ressort, pourquoi tant de triomphalisme, pourquoi tant d'émissions autour de la science, autour de ce leitmotiv, ce truc qu'on entend tout le temps, si vous l'avez jamais entendu, je suis étonnée, ce sont des maladies comme les autres. Qu'est-ce qu'on entend, chacun? Qu'est-ce que ça raconte? Et voilà. Et qu'est-ce qu'on nous raconte de nous, donc, avec cette science?
Ben voilà. Alors, le grand truc des scientifiques qui parlent de maladies psychiques en ce moment, c'est de nous expliquer que nous allons bientôt faire des avancées très importantes. Nous allons trouver des marqueurs génétiques. Nous allons, grâce à l'imagerie, enfin pouvoir voir la folie dans le cerveau des personnes folles. Mais ce que nous disent les journalistes, c'est que toutes ces hypothèses, pour eux, sont des faits acquis. C'est-à-dire que tout ça parce que, grâce à l'imagerie fonctionnelle, on voit s'allumer des zones dans les cerveaux des malades. On pourrait déduire de ces images un traitement. En fait, comme ces images justifient la folie, on nous dit le seul moyen pour l'instant, c'est les médicaments, mais on a trouvé quand même donc la sismothérapie, effectivement aussi, mais aussi les stimulations intracrâniennes profondes. Donc là où on va opérer le malade pour lui mettre des électrodes. Sauf que toutes ces avancées ne sont qu'en fait des constats. C'est-à-dire que on prétend avoir découvert la maladie. C'est-à-dire que quand on fait des études sur les gens déjà diagnostiqués. C'est-à-dire qu'on va faire des imageries d'une personne diagnostiquée schizophrène face à une personne soi-disant normale et nous dire, regardez, effectivement, le schizophrène, ça se voit à l'image, c'est différent. Sauf qu'en réalité, ça n'ouvre pour l'instant aucune piste thérapeutique qui soit meilleure que les médicaments qui n'ont pas évolué depuis grosso modo les années 50. Et voilà. Il y a une petite baisse des effets secondaires, des nouveaux traitements pour les corriger. Mais globalement, le soin, ce n'est pas le médicament. Le médicament, c'est un traitement. Et on nous vend le soin comme étant le traitement, alors qu'en réalité, pour nous, pour moi, je veux dire plutôt, le médicament est effectivement nécessaire pour pouvoir accéder aux soins, sinon on ne peut pas le recevoir. Quand on est vraiment trop délirant, on ne peut pas recevoir le soin. Les médicaments permettent cet accès aux soins, mais le soin, c'est uniquement, c'est en grande partie quelque chose de relationnel et un échange entre le soignant et le patient et entre des soignants et des patients. Et je voulais rebondir sur ce que disait Madame Gilles tout à l'heure. C'est vrai que les familles se sentent souvent très isolées et ne savent pas comment se comporter avec leurs malades, avec leurs enfants ou leurs parents. Ces problèmes-là arrivent quand il y a un abandon de la part des équipes soignantes de ces malades. C'est-à-dire que je prends l'exemple de l'endroit où je suis suivi. Je peux faire appel à tout moment à un soignant, moi, malade. Je n'ai pas besoin que mes parents appellent pour moi. Et puis, mes parents sont le moins mêlés possible à ces soins parce qu'il y a une équipe, une entraide tout autour de moi qui me permet de vivre dans la cité et de ne pas être à la charge de mes parents.
Tell them say I'm a true ganja man. No, me no fear Babylon. Tell them say I'm a true ganja man. Come on, oh, says I fear Babylon. Tell them say I'm a true ganja man. No, me no fear Babylon. Cannabis cup band, let me know. I'm talking some roots rap and reality. I know Pandy, so it's the one rackety. Me born and me grow in a New York City. Me come for teaching people love and unity. It's every type of man them we smoke sensei. The young, the middle and the elderly. The rich man and the man we living in a poverty. Some them are belly full and some them are hungry. So when we get together in our community, we take a one draw for all of our family. And pass it round the cipher 1, 2, 3 degrees. You know you got to bless that you want it done properly. The healing of the nation certainly. You light it and you pass it and you feel irate. Some them are follow me, some them are disagree. Nobody could have ever take away my sense. CGO says I fear Babylon. Tell them say I'm a two ganja man. No, we no fear Babylon. Tell them say we are two ganja man. Come on, oh, says I fear Babylon. Tell them say we are two ganja man. No, we no fear Babylon. Tell them say, yeah. Take it down low, take it down low. What's up, y'all? We having a good time tonight. Everybody, if you love love, show your love and make some noise, y'all. Yeah! Yes, I! Y'all gonna bring a brethren out. Good brethren right now. We're gonna bring a brethren out right now. For real. All the way from Trinidad. Make some noise for Hardical Don. Make some noise for Hardical Don. Hardical Don, where are they, one?
Is the dancehall business? Is it nice to dance? And it's a visual arts culture. All we want to dance to the cannabis cup. You know, say something you cannot miss when it comes down to this. This is what we chant, say we tell them it's a people them are screaming and shouting them. Now for them a talk, say they really love this. So you cannot fart, say you cannot fart to miss. Cannabis cup and have a rock down session. Everyone a come is a smoke all night long. You know them a talk, it's the wickedest one. Now me tell about the man, cause me stand up on the stand. Now I come in on the dance, see me lyrically hot. Come in on the dance, see me smoking up but. See me feeling kinda high, see me feeling real hot. Now me have a chatter, see me, oh! Red, red eyes, see the red, red beard. And now for them a talk, see the wicked not scared. Think of Babylon, come, me no get up, me no run. True, I am a true Rasta man. Bring up on the mic, see me rock down session. This is what me chatter, see the kind of this man. High time, yes, me have a tell everyone. Mash up dance all in Amsterdam. True, me have a chat on the mic. When me come up on the mic, it's a lyrically aim. Take it from the top, I see me tell him yes tonight. DJ, the calls, I'm a tell him right. I'm on the telephone, I'm a